C'est vous qui dites.
L'émission d'information locale.
Présentée par la rédaction de Radio U Campus Morlaix.
Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Malika Achaoui, infirmière au CHU de Brest en pédiatrie. Fin 2024, elle est partie à Gaza pendant 2 semaines avec les associations Palmed et Rama. Pendant ces 2 semaines, elle a vu l'enfer du génocide en cours à Gaza. Je rappelle que l'ONU, via la rapporteuse spéciale des Nations Unies sur les territoires palestiniens, Francesca Albanese, reconnaît une violation des droits internationaux, ainsi que d'une occupation militaire illégale par l'État d'Israël des territoires palestiniens et de Cisjordanie. Pour certains, le conflit peut sembler récent, mais il prend racine depuis la mise en place de l'État israélien en 1948. Actuellement, le peuple de Gaza souffre. Des civils, des enfants sont entassés dans des hôpitaux gazaouis, dépourvus de matériel et coupés d'aide humanitaire. Et aujourd'hui, elle témoigne à Morlaix lors d'une conférence organisée par l'association France-Palestine Solidarité lors du Festival des Solidarités. Salut Malika, comment vas-tu ?
Bonjour, bah écoute, ça va.
on commence directement dans le vif du sujet. Avant ton départ pour Gaza, qu'est-ce qui a déclenché cette envie d'y aller ?
Déjà, j'ai un attachement particulier avec la Palestine depuis toute petite. Mmh. Mes parents m'en ont toujours parlé, j'ai toujours suivi de près ou de loin ce qui s'y passait. Mmh. Et ensuite, avec mon regard de soignant, d'abord aussi, ouais. En tant qu'être humain et humanitaire, mais aussi mon regard de soignant, je ne pouvais plus au fait, rester silencieuse ni inactive. En fait, ça devenait viscéral. Mmh. Je voyais les images par internet parce que très peu étaient dans les médias mainstream. Donc je voyais les images et je me suis dit c'est pas possible de rien faire. Puis il y a eu la première mission qui a été envoyée et je me suis dit pourquoi pas. Donc mmh. Je les ai contactés, ils m'ont dit ok. Donc j'ai eu c'est au bout de la troisième demande que on a réussi à faire partir une équipe. Parce que là, c'était une mission médicale pédiatrique, essentiellement, et gynécologique pour les femmes-enfants, en fait. C'était vraiment avisé. Il y avait aussi des chirurgiens viscéraux, des chirurgiens généralistes. Mais voilà, principalement pour les mères-enfants et femmes et les enfants. Donc, j'ai pu participer en tant qu'infirmière, parce que pour parler de l'association Palmed, c'est une association, en fait, Palmed pour Palestine médecins. Donc essentiellement médical à la base. On est les premières infirmières à vraiment partir avec Palmed, parce que normalement c'est que les médecins. Et Rahma World est une association, américaine. Pareil, c'est principalement des médecins et des infirmières aussi qui partent. Et on a pu, à travers eux, j'ai pu partir en mission une fois contactée.
Et donc, dès le 19 décembre 2024, tu pars avec Palmed et Rama. Comment est-ce qu'on va à Gaza quand on fait partie des aides humanitaires ? Quel chemin t'as pris ?
Alors, il y a deux façons de rentrer dans Gaza, par la frontière égyptienne, qui est actuellement fermée avec le blocus et puis par la décision de l'État égyptien qui contribue au blocus, et par Israël. On n'a pas le choix que de rentrer par Israël. Donc, on a atterri en Jordanie, à Amman. Et puis, on a traversé la frontière jordanienne et israélienne. On a été escorté sans difficulté, tout ça. Hein. Bien sûr, c'est ironique. On a traversé vraiment d'une traite. Hein. On avait pour information de dire attention, ne buvez pas trop parce que vous ferez zéro arrêt. C'est-à-dire, il y aura zéro. Vous traverserez Israël d'une traite. Escorté par la police israélienne. Du coup, on a été escorté, comme convenu, en car, jusqu'à la frontière de Gaza. On est arrivé très tard parce que la frontière jordanienne et israélienne, ça a été très très long, très compliqué. On a mis 4 heures, 5 heures, et ensuite il y avait la traversée, le temps d'attendre les cars, c'était très compliqué. Et on est arrivé tard à la frontière, et ils ont failli nous faire partir et faire demi-tour. On a réussi à négocier. De rentrer. Du coup, on n'est pas rentré par la frontière qui est normalement il y a une grosse frontière officielle. Ils nous ont fait rentrer par les petites portes, quoi, entre guillemets, qui était un terrain boueux de terre avec nos valises, notre matériel médical. Donc, on a tout porté à la main pour pouvoir aller, parce qu'on la traverse à pied, parce que le car reste côté Israël. Et il y a notre petit, un petit car qui nous attendait côté Gaza. Et on a réussi à traverser. On a rapidement, vite rempli le car. Et on est reparti. C'était plus un trafic qu'un car même. Et on a commencé. Donc notre chauffeur palestinien nous attendait. Et on a traversé. Et on est arrivé à Rafah, quoi, côté Rafah. Et on a traversé jusqu'à Khan Younes.
Vous êtes donc passé par la Jordanie, c'est ça?
C'est un ça, pays Jordanie.
Un pays frontalier. Est-ce qu'eux aussi sont, comment dire, affectés par le conflit actuel?
Alors, on est resté. Moi, je suis arrivée un jour avant le départ en Jordanie. Donc, j'ai pu sortir un petit peu en Jordanie en arrivant, histoire d'attendre l'équipe. Parce qu'on est arrivé avant l'équipe de l'Ahma World. Et le peuple jordanien, ils étaient tous, parce que quand ils nous demandaient si on était touristes, qu'est-ce qu'on faisait en Jordanie, on leur a expliqué qu'on allait à Gaza. Et ils étaient tous surpris d'abord, ravis, ils nous ont tous dit merci. Et le trois quarts, mais si ce n'est pas le 99% des gens qu'on a rencontrés, nous disaient « je suis palestinien, bravo, merci et... » Je ne peux plus retourner dans mon pays. Donc le peuple, oui. Maintenant, les États.
Donc, tu arrives à l'hôpital de Gaza pour porter ce soutien aux urgentistes, d'abord, si je ne me trompe pas. Comment ça s'est passé, la première confrontation avec la réalité du terrain?
Alors, nous, on est arrivé par le sud de Gaza, d'abord. On est arrivé à l'hôpital Nasser à Khan Younes. Et là, on a passé juste la première nuit. Et de là, cette nuit-là, on a décidé de qui allait dans le nord et qui restait dans le sud. Sachant qu'à cette période-là, le nord, avait vraiment besoin de soignants. C'était là où les bombardements étaient le plus violents. Du coup, voilà. Donc, on a décidé de qui restait, qui voulait partir. C'était vraiment sous la forme du bénévolat, quoi, de dire « moi, je veux bien ». Et donc on a décidé pour le trois quarts de l'équipe de monter dans le nord et une petite partie est restée dans le sud parce qu'il y avait besoin aussi les besoins dans le sud. Donc dans le nord, la pédiatrie avait énormément besoin aussi, donc on a envoyé les principaux de pédiatrie, de gynéco. Et on est remonté, et là sans difficulté aussi, on est monté à Gaza City. Donc normalement le chemin serait en 35 minutes. On l'a fait en une journée. Les checkpoints, l'armée nous descend, papier, contrôle, les drones, les photos, bref, voilà, toutes les difficultés qu'on puisse avoir. Ils nous ont fait patienter des heures et des heures dans le camion, attendre, on ne savait pas quoi. Donc voilà. Et on est arrivé à Gaza City. Gaza City, on a été cueillis par l'équipe médicale. On est arrivé en fin d'après-midi, qui nous a fait visiter l'hôpital assez rapidement. Qui nous a dit, nous a montré où étaient les urgences, où étaient les locaux en général de l'hôpital. Et ensuite, ils nous ont accompagnés dans nos départements, là où on allait dormir. Et ils nous ont aussi affectés, on a eu une réunion où ils nous ont affectés dans nos services, selon nos spécialités. Donc moi, j'ai travaillé de nuit, je travaillais principalement aux urgences, à l'hôpital Mahamadani, là où on dormait. Et ensuite, la journée, j'allais travailler à l'hôpital Iktifa El Marid. C'est un hôpital spécialisé mère-enfant et de pédiatrie à la néonatologie. Et là, j'ai été affectée en service de réanimation néonatologie et pédiatrique. Donc voilà, la journée, je faisais 8h-16h dans cet hôpital, la pédiatrie. Le soir, en rentrant, je travaillais aux urgences selon au rythme des bombardements.
Et est-ce qu'il y a un événement pendant pendant tes deux semaines qui t'a particulièrement marqué? Quelque chose que tu aimerais raconter, que tu peux
Alors,
raconter.
Quand on va à Gaza, la période où on a été, y a eu deux événements où vraiment, si on peut, sans compter quand on voit le pays, quand on le traverse et qu'on le voit au degré où il a été détruit, dans l'état de néant dans lequel ils l'ont mis, c'est assez choquant aussi. voyez. Et après, pour parler vraiment plus professionnellement au niveau infirmier, j'ai été le deuxième choc que j'ai eu, parce qu'il y en a vraiment eu trois, et après tous les soirs, hein, c'était tous les jours, mais vraiment ceux qui m'ont marqué vraiment dans le, quand je dois dire, c'est au réveil à Khan Younes, le lendemain de notre arrivée, quand on est arrivé de nuit, comme je vous ai dit, on dormait et on s'est réveillé le matin et on m'a dit, viens voir Malika, la vue qu'on a, et c'était un camp de réfugiés, mais gigantesque, mais tout le long, tout le temps. Là où je regardais, il y avait des tentes et les gens étaient dehors, au fait. Comme les infrastructures, les immeubles étaient détruits, les maisons. Et ben voilà, les gens, c'était un camp géant. Et la troisième, vraiment, là où je me suis dit, ça y est, tu y es. Maintenant, tu y vas et tu te forges de ce que tu vas voir. Mon cerveau s'est un peu mis en mode off et je me suis dit, allez, c'est comme si tu regardais les vidéos, et je pense que c'est ça qui m'a aidé à tenir. Et puis il y a aussi le soutien des soignants là-bas, des gens qui ont été hyper bienveillants et vraiment leur foi, leur détermination, leur gentillesse m'a aidé aussi à tenir. C'est le premier soir où on est arrivé à Gaza City. Après la visite, on a pris nos locaux, comme j'ai dit. On s'est installé dans la chambre et il y avait des infirmières palestiniennes qui étaient avec nous. Donc on a pu se rencontrer, faire connaissance, et elles nous avaient préparé gentiment un bon petit repas et on a mangé. Et là, au fait, on a entendu les premiers bombardements, parce que dès que la nuit tombait, ça s'intensifiait. Et là, on a vraiment entendu les bombardements très proches, au fait. On les entendait de loin pendant notre parcours, mais là, on les a vraiment entendus, c'était là, c'était dans Gaza, à quelques kilomètres, voire mètres, quoi. Du coup, on s'est dit, ah, qu'est-ce qui se passe là? Parce que vraiment, on finissait de manger. Et j'ai dit, bah, est-ce qu'on doit descendre? Elle m'a dit, oui, si on entend les sirènes des ambulances, ça veut dire qu'ils ramènent des patients. Sinon, ça veut dire qu'il n'y a que des martyrs, que des morts. S'il n'y a pas de sirènes, pas dur. Donc voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on s'est mis en tenue directement le premier soir. Vraiment, c'était le deuxième soir à Gaza. On venait d'arriver à Gaza City, on s'est mis en tenue, on a pris des compresses, on a pris du matériel dans nos poches un petit peu comme ça, en se disant, bon, voilà, des gants, voilà, des choses qu'on avait ramenées avec nous. Et on est descendu aux urgences. Et parce qu'on avait visité, mais on n'avait pas encore assimilé où étaient les urgences, tout ça, pour y aller tout seul. Donc il y a une infirmière palestinienne qui nous a accompagnés gentiment. Et là, on a entendu les sirènes, en effet. C'est pour ça qu'on est descendu, et les cris, les premiers cris des personnes, les cris des gens, des familles, et les cinq premiers martyrs que j'ai rencontrés, c'est cinq enfants, dans les bras des gens, des ambulanciers qui les ramenaient en criant, parce qu'au fait, là où on habitait, juste en face, c'était là où ils posaient les martyrs. Du coup, les cinq premiers, c'est les cinq enfants, et j'ai vu les trois premiers, j'ai refusé de regarder les deux autres qui arrivaient parce que je me suis dit, allez, va aux urges. Et c'est là où je me suis dit, bon, allez, blinde-toi. Parce que les trois, je ne sais pas si ça risque d'être choquant, mais je pense qu'on est là pour ça, pour aussi ouvrir les yeux des gens. La première, elle était complètement inerte, décédée dans les bras, pleine de poussière. On voyait qu'elle avait pris l'immeuble sur la tête, quoi. Les deux autres dans le même état, décédées dans les bras du monsieur, sauf qu'une avait les viscères à l'extérieur et l'autre, elle avait la tête complètement aplatie, écrasée. D'accord ? Donc voilà, c'est les premiers vraiment moments où j'ai eu à Gaza au niveau soins, au niveau urgence. Et c'est ce qu'on voit quand on va là-bas. Et c'est après devenu... c'est vraiment là, vraiment les premières minutes, donc ça m'a choquée. Après, je ne dis pas que je n'ai pas été choquée par tout ce que j'ai vu autre, mais c'est que je me suis blindée. Et je me suis dit, voilà, c'est ce que tu vas voir maintenant, il faut que tu t'y prépares. Et ça va être comme ça tout le temps. Et ça a été comme ça tous les soirs. Pendant 15 jours.
Justement, tu parlais d'une préparation. Est-ce qu'au préalable, avant d'arriver sur Gaza, même avant de commencer la traversée, le voyage, est-ce que tu as eu une préparation mentale, physique, avec
non.
les organismes? Non,
non.
Vraiment,
non. C'est un peu fait dans l'urgence, parce sûr. Que ben là, on était vraiment dans l'urgence. Ils nous disent, quand on a un petit topo avant, vraiment quand on part, ils nous disent tu vas avoir des choses difficiles, donc après toi, et après on sait, quand on part là-bas, on s'y prépare tout seul au fait, presque, en se disant bon, voilà, même si on s'y attend pas, on s'attend pas à vraiment voir. Moi, je vous dis, quand j'ai vu cette petite fille dans ma tête, je me suis dit mon Dieu, c'est exactement comme j'ai vu dans dans les vidéos qu'on montrait, TikTok, pour pas les citer, Insta, tout ça, tout ce qu'on peut voir sur les vidéos que les gens filment là-bas d'eux-mêmes, c'est comme ça qu'on a l'info. Et ben, c'est, je me suis dit, mon Dieu, c'est vraiment, on dirait que je suis derrière mon écran, en fait. Et je pense que c'est ça qui m'a aidé à tenir. Mais il n'y a pas de préparation réelle, à part qu'on nous dit, bah voilà, ça va être comme ça, maintenant voilà, on sait, hein, on va en signe à papier, on sait qu'on peut mourir, on sait qu'on peut être blessé, et on signe à papier disant qu'on est conscient de tout ça, hein, qu'on est là volontairement, hein, que personne nous a forcé, mais aussi qu'on est conscient de tout ce qu'on peut risquer. Parce qu'au fait, quand on est là-bas en tant qu'humanitaire, dans n'importe quelle gare à la rigueur, ils respectent les hôpitaux, mais pas à Gaza au fait. L'armée génocidaire en face bombarde les hôpitaux volontairement. Elle laisse pas de répit au fait, nulle part au fait. Il y a pas d'endroit où on est en sécurité. Et même nous, les humanitaires, on n'est pas en sécurité. Donc on peut se faire bombarder, on peut se faire. Moi, il y a les transferts qui se faisaient ou avec le taxi qui était venu nous chercher, trafic était venu nous chercher. Il nous emmenait dans les hôpitaux, il nous déposait tous à nos hôpitaux. Et à un moment donné, il a dû partir et je montais dans les ambulances. On montait, c'est les ambulances de l'hôpital qui nous emmenaient d'un hôpital à l'autre. Mais pareil, elles sont visées, donc j'aurais pu me trouver dans une ambulance. Donc voilà, on part en conscience de ce qui peut se produire et on n'a pas forcément de préparation avant psychologique ni après. Hein. On a des groupes avec tous les autres médecins. On a des groupes où on parle hein, de nos... Et je pense que notre thérapie, c'est les témoignages, au fait. C'est... Je pense que ça suffit. Pour moi, en tout cas, personnellement.
Tu disais avoir navigué du coup entre plusieurs hôpitaux. Quel était le public, si on peut vraiment appeler ça un public, le plus gros public de l'hôpital, en fait?
Alors moi, j'avais vraiment les deux. Parce que j'avais vraiment... Ma journée, c'était les enfants et les mamans. Et de l'autre côté, j'avais les urgences et on pouvait avoir et des enfants, et des personnes âgées, et des hommes, et des femmes qui venaient de subir un bombardement avec des blessures très graves ou moins graves pour certains. Mais le trois quarts du temps, c'était très très grave. Il y a certains blessés qu'on ne voyait même pas aux urgences tellement ils allaient directement au bloc opératoire pour ceux qui étaient restés ouverts dans les blocs. Mais après, moi, ma plus grosse partie de la journée, de 8h à 16h, je la faisais en pédiatrie, en réanimation, et mon public était principalement des enfants. C'était des enfants, on faisait les urgences aussi pédiatriques, c'est-à-dire on recevait les petits bébés qui étaient en état de malnutrition, en hypothermie, des mamans allaitantes qui n'avaient pas suffisamment de lait parce qu'elles ne se nourrissaient pas elles-mêmes du fait du blocus et que, du manque d'alimentation. Et ça, je parle de ça d'il y a un an. C'est encore pire aujourd'hui. J'ai mes collègues médecins, mes collègues infirmières avec qui je reste en contact qui me disent que la situation est encore pire. Nous, on avait eu 8 cas en tout d'hypothermie, de mort de bébés, hein, de nourrissons dans les tentes d'hypothermie parce que c'était l'hiver quand j'y suis allée. Et ils me disent que là, avec la dénutrition et la malnutrition des enfants, c'est encore pire qu'il y a des enfants de tout âge, surtout les nourrissons, qui tombent et qui meurent de faim, au fait.
Justement, tu parlais de malnutrition et de coupure dans l'alimentation. Toi et les autres aides humanitaires, comment vous viviez, justement, vu que je suppose que la nourriture était rationnée pour vous aussi?
Alors, la nourriture était rationnée, l'eau était rationnée aussi pour nous, mais on arrivait à en avoir. Nous, on a, avec l'association faisait en sorte qu'on soit nourri quand même, qu'on ait un repas par jour le soir, en fait. Et l'eau aussi était distribuée par bouteille, par bidon, où on se remplissait et qu'il fallait rationner et qu'il fallait partager entre toutes les filles qui étaient dans cet appartement, palestiniennes, nous, les soignants. Mais on était nourris une fois par jour. Le soir, on nous assurait un repas. Et à l'hôpital, ils distribuaient l'hôpital pareil à leurs soignants pour que l'hôpital fonctionne, il faut que les soignants soient en forme. Donc l'hôpital s'arrangeait aussi d'acheter de la nourriture pour son personnel soignant qui n'arrivait pas à manger le soir, par exemple, et pour qu'ils puissent les nourrir, ils les nourrissaient à midi. Et donc ils leur distribuaient de la nourriture, mais ce n'était pas le festin, c'était vraiment de quoi tenir le coup et de quoi se redonner un petit peu de force. C'était souvent du riz rouge en sauce, Ou alors du pain avec des petites choses dessus, un peu de sauce tomate, des choses comme ça. Voilà, c'était ça, quoi.
Toi, maintenant, t'es revenu en France depuis presque un an. Comment tu le vis, l'après, la médiatisation autour de tout ça aussi
Alors,
c'est quoi ton actualité, si on peut dire ça ?
Alors moi, quand je dis souvent, je dis je suis rentrée une Malika, et il y en a une autre qui en est ressortie. On n'en ressort pas identique, hein, que ça soit au niveau humanitaire, au niveau de tout, en fait. Au niveau médiatique, je suis scandalisée que personne n'en parle, en fait, ou très peu, ou là, ils ont commencé à en parler, avec la reconnaissance de l'État de Palestine. Il aurait mieux fait presque d'arrêter de financer des drones et des... Mais voilà. Donc, non, moi, je suis scandalisée, je suis horrifiée. De tout ce qui peut se dire ou pas dire, parce que c'est de toute qu'on essaye de museler notre parole, au fait, que dès qu'on dit Free Palestine, on est traité d'antisémite, que dès que que tout est mélangé, tout est il y a une propagande telle d'Israël que tout le monde, vraiment tout le monde, j'ai l'impression, en tout cas c'est mon point de vue, tout le monde y croit et avale tout et fait en sorte de continuer à relater cette propagande qui est complètement faussée, et voilà, je suis scandalisée. Je n'ai plus aucune patience avec tous ces gens qui sont qui inventent même des termes sur la Palestine, comme le palestinisme, des choses comme ça. Voilà, j'ai plus aucune patience, au fait. Ça y est, j'arrive plus à être, l'ayant vécu, l'ayant vu ce qui se passe, et qu'on en dise que c'est surtout ce, quand on voit sur Internet le dire des gens en disant c'est des fausses images, c'est l'IA, c'est l'IA. Non. C'est loin. En fait, je me dis comment l'humain peut en arriver là, au fait. Je me dis comment l'humain et comment on peut laisser faire, au fait. Comment les gens peuvent laisser faire, comment les gens, par leur mutisme, peuvent laisser faire, qui détournent le regard. Il y a ceux qui disent rien, qui savent, mais qui disent rien. Il y a ceux qui prennent la défense tout court d'Israël parce que c'est Israël, sans réfléchir à ce qui s'y passe réellement. Et il y a ceux qui détournent le regard. Et tout ça, je me dis, mais comment on peut, quand on est un être humain tout court, accepter tout ce qui se passe et de laisser ce génocide se faire sans que personne agisse, au fait. On devrait être 10 fois 1000, mais 1000 fois plus dans les rues, que ça soit Brest, que ça soit Paris, on devrait être... Moi, quand je vois les manifs qu'on fait tous les 15 jours ici, je suis outrée, déçue, mais tous les sentiments se mélangent, je suis en colère au fond de moi même, en me disant mais comment les gens ne peuvent pas venir, quoi. Comment les gens ne peuvent pas se dire tiens, je vais donner une petite heure à la Palestine pour dire non, quoi, pour crier à non à ce génocide, non à ce qui... Moi, il y a plein de gens autour de moi qui me disent les pauvres, oui, c'est vrai, mais au fait, ils sont pas là, au fait, quand on leur dit, quand je dis il y a des manifs, viens, c'est parce que plus on sera, mieux ça sera, et voilà, c'est un mélange de tout ça, de colère, de rage, j'ai encore plus envie de me battre pour eux aussi, de militer, de témoigner, parce que je me dis, on est tellement peu que c'est nécessaire et important.
Et pour les personnes qui veulent s'engager, qui veulent participer à l'aide de la cause, qu'est-ce que tu recommandes de faire ? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire sans forcément aller sur le terrain, parce que c'est pas accessible
non.
à tous et à toutes.
C'est pas accessible. Évidemment. Et c'est pas le but de. En fait, ce qui, dans l'idéal, ce serait que ça s'arrête, ce massacre. Mais en fait, ce que je conseille, c'est de s'approcher de toutes les associations près de chez eux, que ce soit FPS, Urgence Palestine, voilà, toutes les associations qui militent pour la Palestine. Il y a des associations de jeunes aussi. L'Union Pirate, des choses comme ça. Il y a plein de monde qui se mobilise pour la Palestine, et c'est de se rapprocher auprès d'eux. Il y a aussi le boycott qui est hyper important. C'est facile à faire. Il y a plein d'alternatives. C'est une autre façon de voir les choses et de consommer. Il y a le boycott pour les cités, hein, McDo, BNP, Carrefour qui s'implante en Cisjordanie, dans les colonies. Voilà, il y a plein de choses à faire. Donc moi, je les invite à aller voir dans leur ville quelles sont les associations qui militent pour la Palestine, et eux-mêmes vont leur dire que le boycott, Il y a plein d'applications qui aident à savoir quels sont les produits à boycotter, les sociétés à boycotter. Voilà, il y a plein de choses à faire et que dans qu'il y a des alternatives à McDo, il y a des alternatives. Puis c'est dégueu, donc l'un dans l'autre, on y est gagnant à boycotter pour beaucoup de choses. Et voilà, donc je les invite à aller voir tout ça et à s'intéresser sur le boycott et de voir télécharger. Moi, j'ai Boycottix, par exemple. J'ai Boycottix et je fais mes courses avec Boycottix.
Dernière question et après, j'arrête de t'embêter.
Tu m'embêtes pas.
Le terme génocide, il est beaucoup utilisé par toi dans cette interview, par les militants pro-palestiniens en général, mais il reste contesté par une grosse majorité de personnes, l'utilisation du terme génocide. Est-ce que tu penses, toi, après avoir vu ça, après tout ce qu'on sait, pourquoi est-ce que les gens genre, refusent toujours ce bloc d'à utiliser le terme génocide ?
Mais il a été dit à l'ONU, il a été dit dans toutes les grandes administrations internationales que c'était un gros risque de génocide dans un premier temps et qu'on allait vers le génocide. Donc si on ne l'emploie pas, c'est parce que c'est la propagande justement israélienne et tous les gens qui continuent à la proclamer, c'est ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. On ne parle pas de la Palestine, pourquoi dans les médias mainstream ? Parce qu'ils sont pro-israéliens et qu'on n'en parle pas, il faut dire ce qui est. Et c'est pareil, le mot génocide, pourquoi ? Pourtant, l'ONU le reconnaît, les grandes instances le reconnaissent, mais on n'en parle pas. Au fait, si, il est dit, sauf que... On essaye de le cacher, on essaye de dire que non, c'est faux, quoi. D'où les fameuses histoires de que c'est des fausses images, l'IA, tout ça, voilà. C'est une propagande israélienne en premier que la France, les médias français, pour la plupart, vont dans ce sens-là. Et c'est voulu de faire taire ce mot. Mais c'est un génocide. Moi, pour l'avoir vécu, pour l'avoir vu, et il y a un an, et ça s'est empiré la situation, quand on bloque l'accès de soignants, quand on vise les hôpitaux et toutes les administrations, les écoles, tout ça, quand on coupe, on fait un blocus total, c'est un blocus total de l'alimentation, quand on affame une population, quand on la tue en la ciblant par les hôpitaux, quand on tue les soignants, quand on arrête les soignants, quand on vise d'une balle dans la tête un nourrisson dans les bras de sa maman, le sniper, je ne pense pas qu'il ait fait une petite erreur de choix dans son... Ou alors, il faut qu'il change de métier. Quand on est sniper, on est censé... Voilà. Donc, quand le sniper, il vise la tête d'un enfant volontairement qui joue dans la cour ou qui est dans les bras de sa maman, j'appelle pas ça juste une guerre, comme ils aiment l'appeler, légitime pour se défendre ou quoi que ce soit. Non, j'appelle ça un génocide. Ouais. C'est volontaire et... Et ça, ce mot, il ne faut pas le lâcher, quoi, parce que c'est un génocide.
Et on ne le lâchera pas, et j'espère, en tout cas, personnellement, qu'on continuera à lutter pour... juste pour ça.
Pour leurs droits, au fait, tout court, droit d'exister, le droit d'avoir leur pays, leur indépendance, et de ne pas être colonisés comme ils le sont depuis des années, quoi.
Bah, merci beaucoup, Malika, d'avoir partagé ce témoignage vraiment poignant avec nous et avec tous les auditeurs de Radio U, quand ce sera publié, en tout cas.
Merci à tous, et Free Palestine.
Free Palestine. Merci.
De rien. I'm exhausted. Last night I couldn't sleep, but when I did I could hear bombs in my dreams. Nightmare situation, how could they be so evil? Making mortars out of children and innocent people. We expect the bombs, not knowing where next. Huddle in the corner of my room, trying to protect my little brother as the building shakes like it's possessed. But nothing stronger than the will of the oppressed. I bomb back with my lyrics and rhymes, living the times, trying to break the Palestinian minds. What's hiding in the clouds hanging over my head? My dad risks his life outside to buy bread.
the fourth war. In my 12th year at this stage, I'm numb, though I haven't feel scared. There's nothing I can do in this case to stay safe. I'm brave, even though this house could be in my grave. I want freedom for the population. 2 million prisoners living in this location, shouting at the wall, but nothing is ever changing. That's life under an occupation. I want freedom for the population. 2 million prisoners living in this location, shouting at the wall, but nothing is ever changing. That's life under an occupation. Mothers mourn, fighting with grief. White sheets cover bodies that lie on the streets. Buildings turn to ash, but my mind is made of steel. So it doesn't take much for me to heal. Won't lose the will to live or lose our minds. My auntie lost her home, so she lost her life, but she is still alive, but traumatized by the bombs that flew in and dropped that night. My sister couldn't sleep, tried to stop her cries. I said it was fireworks, I was telling her lies. Where's the compassion? This is heartless. It's like they want us all living in darkness. Cutting off water and electricity for hours. They're knocking towers, but that's not knocking the power that I have in my pen. When I'm writing, I'm unstoppable. The microphone is the only escape possible, 'cause that's the way that I can speak my mind. I wonder how does the fighter pilot sleep at night, knowing he can turn the city upside down all of a sudden, slaughtering families with the push of a button. I want freedom for the population. 2 million prisoners living in this location, shouting at the wall, but nothing is ever changing. That's life under an occupation. I want freedom for the population. 2 million prisoners living in this location, shouting at the wall, but nothing is ever changing. That's life under an occupation.
Retrouvez vos podcasts sur vos plateformes de stream préférées.